Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Politiquement Votre, l'émission politique du vendredi sur CFM Radio.
Gabriel Attal est notre invité ce matin au lendemain de son déplacement en Tarn-et-Garonne pour soutenir Catherine Simonin-Benazé, candidate Renaissance à législative partielle en Tarn-et-Garonne, un scrutin local mais qui cristallise les tensions nationales, un test pour la majorité, un baromètre de l'humeur des Français et aussi un révélateur des rapports de force à moins de 3 ans de la présidentielle. Bonjour Gabriel Attal, bonjour Monsieur le Premier ministre.
Bonjour.
Alors cette partielle, elle est scrutée comme un indicateur du rapport de force politique. Certains y voient un référendum contre le gouvernement, d'autres un symbole de la fragilité territoriale dans la majorité. Vous êtes venu soutenir Catherine Simonin-Benazé dans un département où la majorité peine parfois à s'implanter. Est-ce que vous assumez ce scrutin comme un test politique pour le camp présidentiel et pour la majorité ?
Vous avez d'abord, il n'y a plus vraiment de majorité présidentielle. Vous avez aujourd'hui des groupes qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Aucun n'a la majorité. Et certains groupes, en revanche, acceptent, pour la stabilité du pays, pour que le pays puisse avoir un budget, de travailler ensemble et de se tendre la main. Et je suis venu soutenir Catherine parce qu'elle est candidate pour un parti, un groupe, Renaissance, celui que je préside à l'Assemblée nationale, qui est, lui, dans cette logique constructive. Et donc... Soutenir et voter pour Catherine Simonin-Benazé, c'est finalement voter pour de la stabilité et donner un budget au pays.
Alors, il y a ici, dans notre département, une circonscription qui est déjà détenue par la députée Marine Lamelay du Rassemblement national. Il y a aussi une possibilité que ce département, finalement, bascule dans l'extrême droite. Est-ce que c'est aussi la raison de votre arrivée pour quelque part, marquer le coup sur un scrutin important ?
Moi, je me déplace partout sur le terrain. J'étais pendant 3 jours dans l'Hérault la semaine dernière. Évidemment, quand il y a des élections législatives partielles, je me déplace aussi. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de fatalité à ce que le Rassemblement national l'emporte. Je rappelle que le Rassemblement national a perdu les 9 élections législatives partielles qui se sont tenues depuis le scrutin de l'été 2024, y compris sur 2 circonscriptions, dans les Ardennes et en Saône-et-Loire, où c'est bien le Rassemblement national qui avait été élu à l'été 2024. Et finalement, ils ont été défaits au moment de la partielle.
Mais vous ne craignez pas que le département bascule ?
Enfin, je veux dire, on voit bien que le Rassemblement national, l'extrême droite, a déjà progressé quand même depuis maintenant plusieurs années dans ce département, mais ailleurs aussi. Il faudrait être aveugle pour ne pas le voir ou sourd pour ne pas l'entendre. L'important, c'est d'y répondre et de chercher à convaincre des électeurs et de leur montrer que le Rassemblement national ne leur apportera absolument aucune solution à leurs problèmes du quotidien. Alors certains disent... On n'a pas essayé. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Mais il y a bien une raison pour laquelle les Français n'ont pas essayé. C'est parce qu'ils savent qu'ils n'ont absolument aucune solution pour répondre à leurs problèmes.
Alors, notre département, il a une particularité, c'est qu'il est un département agricole, beaucoup d'agriculteurs, très peu de très, très grandes entreprises. Est-ce que vous y voyez une difficulté supplémentaire ?
Ah non, vous savez, moi, j'ai beaucoup travaillé avec les agriculteurs. Ils font face à une crise très importante, une crise de modèle qui est liée aussi au changement climatique, à la question de l'accès à l'eau dans un certain nombre de territoires, à la question de certaines maladies pour leur culture dans d'autres territoires. On a commencé à leur apporter des réponses et évidemment on souhaite continuer à le faire.
Alors j'ai écouté votre discours d'Arras, un discours qui a marqué les esprits avec travail, autorité, jeunesse, c'était quelque part votre ligne directrice. Beaucoup y ont vu une volonté de tracer une ligne claire, voire de vous distinguer au sein même du parti, parce que vous avez refusé de dire que c'était une majorité, mais bon, au sein de votre bloc central, si je puis dire. Vous avez souhaité marquer votre terrain ?
J'ai souhaité dire aux Français comment je vois aujourd'hui le pays et ce que je considère qui devrait être fait pour répondre aux problèmes des Français et relever les défis du pays. Voilà, maintenant, ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui doivent changer. Et qu'on doit assumer un changement profond en 2027 pour le pays.
C'était d'abord un message adressé au territoire, aux classes moyennes qui se sentent délaissées.
Oui, moi, je m'adresse à tous les Français. Ce qui est vrai, c'est qu'on a des classes moyennes qui aujourd'hui travaillent et qui ont le sentiment que, quelque part, travailler ne rapporte plus... davantage que ne pas travailler, et elles attendent qu'on valorise mieux leur travail. C'est la raison pour laquelle, par exemple, avec Renaissance, on était opposé à la mesure qui avait été annoncée par François Bayrou sur les jours fériés travaillés supplémentaires sans rémunération. Et puis évidemment, tous les territoires de France qui ont droit à avoir un accès à des services publics prioritaires, à la santé. Et c'est un sujet important ici, puisque je rappelle que Catherine Simonin-Bénazet est professionnelle de santé, qu'elle s'engage sur les questions d'accès aux soins depuis plusieurs années, qu'elle fait partie de ceux qui portent le plus ce projet de nouvel hôpital de Montauban. Donc l'élire ici comme député, c'est évidemment aussi agir pour l'accès aux soins sur ce territoire.
Gabriel Attal, les Français, ils souffrent. Vous le voyez au travers de vos déplacements. Ils souffrent parce qu'ils n'arrivent pas à se soigner. Vous l'avez évoqué à l'instant. Ils n'arrivent pas à finir les fins de mois. Est-ce que c'est une fatalité pour les Français?
Non, je ne crois pas. Regardez sur le chômage. En 2017, je me souviens, on était encore dans le chômage de masse. Moi, je suis d'une génération qui a grandi en entendant que le chômage de masse était une forme de fatalité, qu'on n'arrivera jamais à le faire baisser. On a aujourd'hui le taux de chômage le plus bas depuis 40 ans. C'est pas sorti de nulle part, c'est le fruit d'une action politique. Et donc, de la même manière qu'on a réussi à mettre fin au chômage de masse, je pense qu'il est possible de mettre fin au phénomène qu'on appelle des travailleurs pauvres et de ces Français qui travaillent et qui n'arrivent pas pourtant à joindre les deux bouts.
Alors, je vous le disais, j'ai écouté, je vous ai regardé à Arras lors de votre discours. Certains, pas que moi, ont analysé ce discours comme une manière assumée de vous affranchir de l'héritage du président de la République, de l'héritage macroniste, si je puis dire.
Non, vous savez, moi je crois que c'était un discours, j'essaye d'être juste quand je m'exprime. Et de la même manière que j'ai dit dans ce discours que le chômage était au plus bas depuis 40 ans et qu'on le devait à l'action qui a été engagée par le président en 2017, de la même que j'ai dit dans ce discours que la France a retrouvé une voie en Europe, qu'on le doit au président de la République, j'ai dit, ce qui me semble être juste hein, pour ces points, j'ai dit que le président de la République a une responsabilité majeure dans le marasme politique actuel après sa décision de dissoudre l'Assemblée nationale en 2024, ce qui me semble aussi être juste. Donc voilà, moi j'essaye de dire les choses telles que je les ressens et telles que je les crois aux Français.
Est-ce que ce discours, il vous prépare un rôle plus large à l'avenir? Est-ce que vous souhaitez vous présenter devant les Français en 2025?
D'abord, tout ce que je fais aujourd'hui, je ne le fais pas pour rien. Oui. Je le fais parce que j'y crois, j'ai envie de défendre un projet sur lequel on travaille avec Renaissance, qui est un projet de nouvelle république, parce que je pense que notre système est mort, qu'il est à bout de souffle. On le voit à tout niveau, sur notre modèle social, sur notre modèle économique, sur notre modèle éducatif, sur notre modèle régalien. Et donc, oui, j'ai envie de porter ce projet auprès des Français, mais vous avez aujourd'hui des candidats qui avancent vers 2027 sans projet, et moi je veux que notre projet avance vers 2027. Et donc je mets d'abord la question des idées et du projet avant celle des personnes.
Est-ce que vous êtes main dans la main avec Sébastien Lecornu pour qu'il réussisse?
Moi, mon souhait, c'est que Sébastien Lecornu réussisse, parce que sinon ça veut dire un nouveau gouvernement qui chute, repartir dans l'instabilité et surtout ne pas avoir de budget adopté d'ici à la fin de l'année. Pourquoi il faut un budget? C'est pas pour nous, les politiques ou les députés, hein. C'est pour les Français. Parce que les entreprises ont besoin de savoir dans quel cadre fiscal et réglementaire elles évolueront l'année prochaine. Que les Français ont besoin de savoir de quelles aides ils pourront bénéficier l'année prochaine.
La taxe Zuckmann, pour vous, c'est niette?
Vous savez, il y a aujourd'hui des discussions sur des mesures qui sont proposées par différents partis. C'est au Premier ministre de déterminer ce qui pourrait faire l'objet d'un compromis avec le Parti socialiste et de nous le proposer à l'Assemblée nationale. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on ne prenne pas des mesures qui font payer une taxe supplémentaire sur l'outil professionnel. C'est ça le problème, je crois, avec la taxe Zuckmann.
Oui, c'est exactement ça. Mais est-ce que vous souhaitez qu'on taxe davantage les plus riches?
Mais en fait, moi, ce que je dis, c'est que aujourd'hui, on demande des efforts à tous les Français parce qu'on doit réduire les déficits et désendetter le pays. Et quand on demande des efforts à tous les Français, ça veut dire que tous les Français doivent contribuer, y compris les plus fortunés.
Mais est-ce que gouverner sans chercher des compromis, est-ce que c'est tenable selon vous? Est-ce qu'un jour on va arriver?
Non, ça n'est pas tenable de gouverner sans chercher des compromis. C'est pour ça que moi j'appelle à chercher des compromis. Je crois que c'est l'état d'esprit de Sébastien Lecornu. Maintenant, pour faire des compromis, il faut être deux.
Mais le centre de gravité, vous en conviendrez, il s'est déplacé un petit peu vers le Parti socialiste, puisqu'on croit comprendre maintenant que le Rassemblement national ne votera la censure, voire d'autres partis. Mais est-ce que, tout ne se joue pas dans les mains d'Olivier Faure maintenant?
D'abord, vous avez raison, le Rassemblement national, l'extrême droite, les amis de Mme Barège, ils veulent le chaos gouvernemental pour avoir une dissolution. Donc voter pour M. Carbonel, le candidat de Mme Barège, ou pour la candidate dissidente du RN, ça veut dire en fait revoter dans quelques mois s'il y a une nouvelle dissolution à cause de ce député qui aura été élu. C'est-à-dire, on parle là de candidats qui font campagne pour être élu, pour s'autodissoudre. Voilà. Donc j'appelle plutôt à voter pour Catherine Simonin-Bénazet, qui, elle, veut être élue à l'Assemblée pour travailler. Ensuite, oui, on voit bien aujourd'hui qu'il y a un compromis à trouver entre le Parti Socialiste, le Bloc Central et les LR. Ça ne sera pas parfait pour tout le monde, ça ne le sera pour personne, c'est l'objet d'un compromis, justement. Voilà, il faut qu'on arrive à trouver ce plus petit dénominateur commun qui permette de faire tenir le pays 18 mois jusqu'à l'élection présidentielle.
Une dernière question, si vous permettez. Ouais. Des choses se sont faites durant la mandature du président de la République. Beaucoup de choses se sont faites. Et pourtant, malgré cela, sur le terrain, on n'entend pas, comme si finalement l'action politique ne ruisselait pas, pour reprendre les termes du président de la République, ne ruisselait pas sur les territoires. Pourquoi, d'après vous, cet état de fait ?
Je pense qu'il y a des choses positives qui ont été faites, mais je pense qu'hélas, il y a certaines promesses auxquelles on n'a pas réussi à répondre, et que finalement, ces choses-là empoisonnent toujours la vie des Français. Quand je dis que des choses ont été faites, si on prend les territoires ruraux, je pense que les maisons France Service sont un vrai progrès pour les Français qui habitent dans les territoires ruraux. Je pense que le développement de la fibre, de la téléphonie mobile, on est maintenant la France, le pays d'Europe le mieux couvert dans l'accès au numérique sur tous les territoires. Je pourrais citer d'autres exemples. Et pourtant, en 2017, le président promettait de libérer les énergies, de permettre à tous ceux qui le souhaitent d'entreprendre, y compris les collectivités locales, les maires, etc. Et on voit aujourd'hui que quand vous êtes agriculteur, quand vous êtes maire d'une petite commune, vous avez encore énormément de blocages et de difficultés. Et je pense que c'est malheureusement cet état de fait qui l'emporte sur les progrès qui ont eu lieu.
Merci beaucoup, Gabriel Attal.
Merci.
Merci.